Voilà, mon ami le Rav Nakash, il m'a donné le zchout de venir parler devant vous. Bémet, je vois ça comme un très très grand zchout. Tavarlo Pachout, c'est pas simple. Je connais pas l'histoire, je connais pratiquement personne ici. Mais j'imagine que chacun, il a fait un pas très très grand pour venir de France et venir dans un endroit, entre guillemets, s'enfermer dans les quatre murs d'un Beit HaMidrash. C'est entre guillemets, Kamouvan, c'est pas la vérité. Mais de temps en temps, ça prend du temps à le comprendre. Donc pour moi, c'est un très grand zchout. Et voilà, on va parler de la période dans laquelle on se trouve en ce moment, la période des Shovavim. C'est quoi Shovavim? Donc, Shovavim, c'est les rachets tevot des parachutes qu'on est en train de lire. Shovavim, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Les 6 semaines qu'on a devant nous. En fait, c'est une période très, 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 très importante pour nous. En fait, c'est comme ça. De la même façon que Elul et la Aseret Yemei Teshuva, c'est une période qui est faite pour faire Teshuva sur l'ensemble de l'Avodat Hashem. Pendant Shovavim, c'est la même idée. C'est une période qui est faite pour la Teshuva, mais au lieu que c'est pour l'ensemble de l'Avodat Hashem, c'est pour tout ce qui est kashour au sujet de la kdusha. Donc quand je parle de la kdusha, d'accord, on parle de tout ce qui est lié aux interdits de tzniout. D'accord? Ça inclut tout, tout, tout. Les gens, de temps en temps, ils pensent que ça parle que des choses très, très, plus graves que d'autres. D'accord? Donc, Zera Levatala. Tout le monde comprend ce que je dis, que Zera Levatala. Tout le monde comprend ce que c'est? Michel, celui qui est non, il lève la main, comme ça je peux répondre. Zera Levatala. Donc, de la sortir de la semence en vain. D'accord? Donc, en général, on pense que Shovavim, c'est pour cette faute-là. C'est faux. Shovavim, c'est pour l'ensemble de tout ce qui est lié à la Kdusha. C'est vrai qu'une des choses, c'est Zera Levatala. Et c'est vrai que c'est une des choses les plus graves. Mais ça comprend encore plein de choses. Tout ce qui est lié à la tzniout. Qu'est-ce que je regarde? À quoi je pense? Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que j'entends? C'est la période, en fait, c'est le Elul. Maintenant, là, les 6 semaines qu'on a devant nous, c'est le Elul pour faire tshuva sur ces choses-là. Maintenant, je vais faire un petit historique. Nous, on sait pourquoi Elul, c'est un Elul et les Aseretim et tshuva, c'est un temps de tshuva. C'est les 40 jours où Moshe Rabbeinu il est monté pour la dernière fois. Pendant 40 jours, il a prié à Hachem. Et Hachem, au bout de 40 jours, il a dit « Salarti ki dvarecha, vazaya yom kippour ». Et donc, cette influence-là qu'il y a eu à l'époque, il y a 3000 ans, elle revient chaque année pendant ces 40 jours-là. Donc chaque année, pendant ces 40 jours-là, nous, on refait tshuva. Il y a une grande siyat adishmaya, une grande aide d'Hachem dans ces jours-là. Donc ça, on comprend pourquoi à Elul, il y a eu ça. Pourquoi maintenant, Shuvah vim yassa? Alors, en fait, ça c'est écrit dans le Hari, que Adam Arishon, quand il a fait la faute, de manger du fruit interdit, alors, top, il y a eu toutes les punitions que Hachem a dit, maintenant à partir de ce moment c'est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Il a décidé de faire tshuva. Une des choses qu'il a fait pour faire tshuva, c'est qu'il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Pendant 130 ans, il ne s'est pas approché de sa femme. Le Hari dit que pendant ces 130 ans-là, de temps en temps, il avait un accident nocturne. D'accord? Donc du Zera Levatala qui sortait pendant qu'il dormait, sans faire exprès. Et dans le Zera, il y a des Neshamot Kudoshot, des âmes pures. Si ça va, si c'est dans le cadre du mariage et que ça va, que de là va sortir un enfant, c'est super. Quand ça sort en vain, alors il y a un problème, parce que les âmes pures, elles sortent, et elles sont attrapées, parce qu'on appelle la Sitra Ahara, par les forces de la Touma. Quand Adam Arishon, pendant ces 130 ans-là, il y a eu ce qui est sorti de lui, ces Neshamot Gdushot, ces Nitzotzot de Gdusha, ces étincelles de Gdusha, elles ont été éparpillées dans le monde. Principalement en Égypte. Aussi dans le reste du monde, mais on va voir qu'en fait, sauf pratiquement tout est revenu en Égypte. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y a eu la famine. Et donc les gens, ils venaient du monde entier acheter en Égypte. Donc ils venaient avec leur argent. Comment ça s'est passé, je ne sais pas exactement, mais dans l'argent, il y avait les nitsotsot. Donc même celui qui était, on va dire, je ne sais pas moi, en Syrie, il allait en Égypte avec son argent. Donc il prenait dans son argent les nitsotsot de Gdoucha qu'il y avait en Syrie, il les amenait en Égypte. En fin de compte, pratiquement toutes les nitsotsot de Gdoucha qui sont sorties de Adam Arishon et qui sont dans la Touma, elles sont retrouvées en Égypte. C'est pour ça que Yosef, par exemple, dans la Paracha, quand il parle de l'Égypte, il appelle ça Ervat Haaretz. Ervat Haaretz. Donc, le sens simple, c'est que c'était un Makom qui était. Enfin, il y a deux sens simples, mais un des sens simples, c'est un Makom qui était Parous. Il y avait beaucoup de manque de Tzniout là-bas. Ervat Haaretz. Erva. Milachon Erva. Milachon. Comment on dit Erva?
La débauche.
Mais dans un sens plus profond, Erva Haaretz, en fait, c'est que la Erva, c'est l'endroit où normalement il y a la semence qui va. Là-bas, comme il y a eu toutes les nitsotsot de Gdusha, pratiquement toutes les nitsotsot de Gdusha de Adam Rishon, qui sont allés en Égypte, donc l'Égypte s'appelle Erva Haaretz. Et le tafkid du Ham Israël, le tafkid, le rôle. Le rôle du Ham Israël, c'est de sortir ces nitsotsot de Gdusha qui sont dans la Touma et de les ramener à la racine de la Gdusha. C'est Betsem le Tikkun HaOlam. C'est pour ça que les Béni Israël, ils ont dû descendre en Égypte et il y a dû avoir l'esclavage. Avec l'esclavage, qui travaillait dans la matière et qui descendait très très loin dans la matière, Bachomer ou Bilvenim, Ken toute la journée en train de remuer la boue, etc., etc., la Avodat Parech, c'était en fait une façon de retirer la Kdusha, les Nitzotzot de Kdusha, des forces impures. Il y a une autre façon de faire, on va le voir tout à l'heure, c'est avec la Torah, mais à l'époque il n'y avait pas encore la Torah. La seule façon de le faire, c'était par le Shirboud. C'est pour ça que, en fait, de façon plus profonde, la raison pour laquelle les Béni Israël ils sont descendus en Égypte et il fallait qu'il y ait un Shiaboud, c'est parce que c'est eux qui ont ce tafkid là, c'est eux qui ont le rôle de sortir toutes les Nitzotzot de Gdusha. Et les Nitzotzot de Gdusha, ils étaient en Égypte. C'est pour ça que, après, quand ils sont sortis d'Égypte, Béhémet, alors il y a écrit qu'ils ont demandé, qu'ils ont pris toute la richesse d'Égypte. D'accord ? Vayetsoubir Khouch Gadol, ils sont sortis avec des trésors. Alors le sens simple, c'est qu'ils sont sortis avec. Plein d'or et d'argent, mais dans un sens plus profond, c'est qu'ils sont sortis là-bas avec toutes les nitsotsot de Gdusha qui étaient en Égypte. Ils ont vidé l'Égypte des nitsotsot de Gdusha. Le Shiaboud est terminé. Il n'y a plus besoin. Ça y est, le rôle il a été accompli. Il n'y a plus besoin, on peut sortir. Donc en fait, le tikkun du Zera Levatala qui a eu chez Adam Arishon, en fait, il a été réparé par les Béni Israël pendant ces parachutes-là. D'accord? Et donc c'est pour ça que chaque année maintenant cette Ehara revient. Et chaque année maintenant il y a une Ehara, il y a une aide d'en haut pour qu'on puisse réparer, nous, ce qui demande réparation. D'accord? Pour l'instant c'est clair? Très bien.
En quoi ils ont réparé concrètement? Par quelles actions particulièrement?
Par l'esclavage.
Par la souffrance.
Exactement. Il fallait l'esclavage. C'est ça qui fait, tu rentres dans le chomer, tu rentres dans la matérialité, et là-bas tu mets toutes tes forces, ces forces-là que tu mets, elles sortent les nitsotsot de Gdusha. C'était la seule façon qu'il y avait de faire à l'époque, avant le matin de Torah. Après le matin de Torah, les choses changent. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu l'historique, pourquoi c'est la période dans laquelle on fait tshuva, sur ces choses-là. Deuxièmement, avant de passer à les marasser, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période-là? Deuxièmement, il y a une autre nekuda, c'est qu'il faut savoir qu'il y a deux choses qui sont très très liées l'une avec l'autre. La tzniout, toute la gdusha, c'est très lié avec la bracha et le shefa. Et inversement, le manque de tzniout, le manque de gdusha, encore une fois je dis, avec tout ce que ça inclut, c'est intimement lié, ça va ensemble avec le contraire de l'abondance, donc la pauvreté, la famine, etc., avec le contraire de la bracha. Par exemple, Mitzraïm, on a vu, c'était Ervat Haaretz. C'était un pays dans lequel il y avait beaucoup de débauches. D'accord ? Quand Pharaon, il a pris Sarah Imenu, il l'a pris dans son parler de force. Après, quand il a renvoyé, il a dit à Abraham, prends ta femme et va-t'en. Alors que quand Avimelech, il avait pris Sarah et qu'il l'a rendu à Abraham, il lui a dit, voilà, tu peux t'installer où tu veux. Rachid dit, c'est quoi la différence? Pourquoi hein, il a dit, va-t'en? Non. Parce qu'Avimelech, il dit, non, les gens, ils sont bécédaires ici. Pharaon, il a dit à Abraham, regarde, c'est un pays de débauchés. Si tu t'en vas pas tout de suite, ils vont vous sauter dessus. Mitzrayim, c'est un pays de débauche. C'était le principal débauche est en Mitzrayim. C'est pour ça que le Ra'av, la famine, à l'époque de Yosef, elle a commencé par Mitzrayim. Ça va ensemble. Ces choses-là vont ensemble. Le Mazon et la Znout, c'est lié. Le Mazon, donc, la nourriture, la Znout, la débauche, c'est lié. Ça me lève que vous rendez compte que là, c'est la même racine. D'accord ? Mazon, la racine du mot mazon, c'est zayn et nun. La racine du mot znout, c'est zayn et nun. C'est le même shoresh au niveau grammatical. Maintenant, nous, on sait que dans la Torah, le Hachem, il a créé le monde avec les lettres. Les lettres, c'est pas seulement des lettres. Les lettres, c'est une force spirituelle avec lesquelles je forme quelque chose. Par exemple, de l'eau, c'est quoi ? C'est H2O. Nous aussi en français, on sait qu'il y a des lettres, et les lettres, ça veut dire quelque chose, c'est une force. H2O, ouais, deux hydrogènes et un oxygène. Et bien pareil, avec les lettres de la Torah, Hachem, il a créé chaque lettre, elle a une force. Quand on dit qu'elles ont le même shoresh, c'est pas seulement un truc grammatical. C'est qu'en haut, il y a un shoresh qui donne quelque chose. Il y a un shoresh, il y a une racine spirituelle qui donne quelque chose en bas, dans notre monde. Et bien Zan, donc le mazon, l'abondance, et znout, ça vient du même shoresh. Maintenant, donc si je prends dans la znout, eh ben, il en reste moins pour le mazon. Si par contre je ne prends pas dans la znout, alors là le shoresh il reste entier. Et là il y a un shefa, il y a beaucoup d'abondance. Ça qui fait que en Mitzrayim, ça a commencé par là-bas. Ça a commencé par là-bas le Ra'av. Parce que c'était un reste de débauche. Soit dit en passant, il y a une Gemara dans Gittin qui dit qu'une fois, de façon inattendue et de façon très 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 violente, il y a eu une hausse des prix terrible. Alors à l'époque, ceux qui gouvernaient le Ham Israël, ce n'était pas ceux d'aujourd'hui. C'était Chachmé Israël, c'était les Gdolé Ador. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, quand les prix montent, alors qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font des manifestations, ils vont devant le ministère de la comment ça s'appelle du trésor, ouais, et ils vont devant Bibi et tout ça, ouais, en pensant qu'ils vont les aider, d'accord. Alors top, moi je vous dis, vous êtes encore jeune, mais je vous dis tout de suite, hein, laissez tomber, ça marche pas et ils aident pas. Ils ont besoin qu'on vote pour eux, mais après ils sont pas là. À l'époque, Rachmé Israël, c'était eux qui gouvernaient le Ham Israël. Quand il y avait un problème, ils regardaient pas le dernier étage du problème, et regardez la source du problème. C'est quoi la source? Tout le temps, chaque chose qui arrive ici, la source elle est spirituelle. Simplement, nous on ne sait pas, eux ils savent c'est quoi la source spirituelle de chaque chose, comme je viens de le dire maintenant. La source spirituelle du mazon, c'est la Gdusha. Et s'il n'y a pas du mazon, s'il y a de la znout, il n'y a pas de mazon par exemple. Donc quand ils ont vu que de façon pas naturelle, très très violente, d'un seul coup il y a une hausse de prix terrible, ils sont assis, ils ont dit il faut qu'on vérifie ce qui se passe, ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a un problème de znout. Ils ont commencé à faire une enquête. La Gemara d'Angitin, Nunzaïn. Et qu'est-ce qu'elle dit là-bas, la Gemara? Elle dit qu'ils ont trouvé le problème. C'était un homme et son fils qui ont violé une femme qui venait de se fiancer. D'accord? Ils ont trouvé que c'était ça. Moi aussi, la Gemara a dit, ils leur ont donné le honesh qu'il fallait. Le lendemain matin, les prix sont revenus normaux. Simulev, que Singmar dans Gitin et Zedaf, Nunzain, Zan. Ça, c'est un remède, non, c'est pour que vous vous rappeliez. Hein? Oda. Oshéken, Oshélon, Iloda. Et c'est pour ça que celui qui devait sortir les bénis, le monde du Ra'av, c'est qui l'a sorti?
Yosef.
C'est Yosef. Qui c'est Youssef? Shomer Abrit. Shomer Abrit. C'est l'exemple par excellence de celui qui fait attention à la Kedusha. Et Youssef ou Amashbir. C'est lui qui a amené tout le chef à Mapshat. Alors nous, ce qu'on voit avec nos yeux, c'était que c'était un super organisateur, un super gouverneur. Il avait un diplôme de expert comptable, etc. C'était un super truc. C'est vrai, hein. Mais ça, c'est que le résultat d'un truc qui se passe là-haut. Youssef, c'était le Shomer Abrit. C'est lui qui a fait le... Soit dit en passant, tant qu'il n'avait pas eu le gros Nissayon avec la femme de Potiphar et qu'il s'est pas truqué, pour l'instant, il était encore incapable de sauver l'histoire. Il fallait qu'il fasse ce Nissayon-là avec la femme de Potiphar, qu'il soit mitgaber sur son Yetzer. Là, il a créé le Shoresh de Gdusha. Et donc là, maintenant, c'est moi qui peux sortir l'Égypte et le monde entier du Rav. Vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est un type seul, il a sauvé le monde entier du Rav. Il y avait un Rav dans le monde entier. Par la Kedusha. C'est très, 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 très lié. Si vous regardez autour de vous, regardez, d'ailleurs, je vais vous dire un truc. En général, c'est quand que les prix montent? En général, les prix montent quand il n'y a pas assez de produits et il y a beaucoup de demandes. D'accord? S'il y a plein de produits, s'il y a plein. Au niveau, là, je parle économique, hein. Au niveau économique, quand il y a plein de produits, bah, ça va, c'est pas très cher. L'eau, c'est pas très cher. C'est quand que ça devient cher, c'est quand ça devient... Plus ça devient rare, plus c'est cher. Dans notre génération, un truc très bizarre qui se passe. Il y a une abondance terrible, mais les prix n'arrêtent pas de monter. Sans arrêt. C'est bizarre. De façon naturelle, c'est pas compréhensible. Ça marche pas comme ça, normalement. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'ils disent au niveau naturel. Je sais pas comment ils expliquent ça. Mais au niveau de ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est très compréhensible. Puisque ce qui entraîne la hausse des prix, c'est pas est-ce qu'il y a de la demande ou il n'y a pas de demande. C'est pas est-ce qu'il y a de l'offre ou il n'y a pas d'offre. C'est est-ce qu'il y a de la Kedusha ou il n'y a pas de Kedusha. Or, aujourd'hui, le problème de la Kedusha, c'est un problème très, très, très sérieux, beaucoup plus sérieux que toutes les autres générations. Depuis qu'ils ont amené les smartphones et les cousins et toute la famille. D'accord ? C'est sûr que le problème de Kedusha qu'il y a aujourd'hui, il n'y a jamais eu avant. Avant, quelqu'un, enfin, je ne sais pas, hein, je sais pas quel âge vous avez, mais vous m'avez l'air relativement jeune. Ceux qui comprennent là maintenant, c'est ceux qui sont vieux comme moi, voire plus. Quand il n'y avait pas de smartphone, quelqu'un, pour faire une bêtise, il fallait qu'il fasse du travail. Et encore plus avant que je naisse, alors là, Bichlal. Il n'y a même pas de télé à la maison, etc. Mais... Aujourd'hui, le type, il a ça dans la peau, il est dans son lit, autant qu'il veut. Il y a un problème terrible de Kedusha aujourd'hui. Et aujourd'hui, bizarrement, bien qu'il y ait une abondance terrible, il y a des prix qui n'arrêtent pas de monter. Ça n'arrête pas de monter sans arrêt. D'après ce qu'on dit, c'est très compréhensible. Parce que quand on dit que le mazon et la znout, c'est lié, quand on dit quand il y a de la znout, il n'y a pas de mazon, c'est pas forcément qu'il n'y a pas de mazon, c'est qu'il y a du mazon. Mais tu ne peux pas l'acheter, il est trop cher. Il faut se serrer en deux comme ça, il faut truquer. Donc voilà, donc ça, nous ce qu'on a dit pour l'instant, c'est deux choses. On a fait l'historique de Shovavim, ouais, pourquoi que c'est la période de Tshuva sur tout ce qui est la ligne Kedusha, et on a expliqué comment c'est né avec le Adam Harishon, etc. Et la deuxième nekuda qu'on a dit, c'est que c'est très très lié dans le Shoresh Rouhani, dans les racines spirituelles, l'un est lié avec l'autre. L'abondance est liée avec la Kedusha. La pauvreté est liée avec le manque de Kedusha. Voilà. Donc je ne sais pas parmi vous ceux qui ont un rêve d'être riche, mais celui qui rêve d'être riche, la meilleure façon de faire, c'est d'être très fort en Kedusha. Là, il aura tout sur un plateau d'argent. Celui qui veut galérer, la meilleure façon de faire, c'est qu'il ne fasse pas attention au inyan de Kedusha. Ne me dites pas, non, mais lui, je sais très bien qu'il a des problèmes de Kedusha et il a plein d'argent. L'argent, ça ne veut pas encore dire qu'il a une anna à ton argent, ouais. Si son argent il part à droite à gauche dans des lourdeurs parce qu'il doit éteindre du feu qui est allumé à droite à gauche, ou que son argent de toute façon il dit ouais je veux bien mais je suis malade mais je peux pas manger, ou encore 10 000 choses, ou alors il a des problèmes à la maison avec sa femme, avec ses enfants, etc. qu'il a pas un gramme de anat son argent, ça s'appelle pas qu'il a de l'argent. L'argent c'est pas l'argent lui-même, l'argent c'est qu'est-ce que je peux faire avec l'argent. Voilà. Donc c'est une période très importante où il faut qu'on Enfin, en fait, il faut qu'on se dise, voilà, on est à Elul. J'imagine qu'à Elul dernier, bah, vous êtes dit, Elul, faut se mettre dedans. Et ben voilà, bah, maintenant, il faut se mettre dedans, c'est Elul. Sauf que c'est un Elul qui est spécifique à la Kdusha. Alors, Tachles, les Maasé, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, il y a beaucoup de choses. Tiens, d'ailleurs, je pense à autre chose. Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui aident plus, il y a des choses qui aident moins. Mais chaque chose, elle est importante. Chaque chose que je fais qui fait encore un petit tikkun, et encore un petit tikkun, et encore un petit tikkun, ça fait mal de tikkunim. Plein de tikkunim. Plein de réparations. Bon, alors bien sûr, Kodem Kol, bah, on est en Elul, alors il faut faire tshuva. D'accord, faire tshuva sur ces trucs-là. C'est quoi tshuva? D'avoir Rishon, premièrement, il faut arrêter les bêtises. Encore une fois, quand je parle de Kdusha, je parle de... c'est un ensemble. Je ne parle pas de Zera Levatala. Je parle de tout ce qui est caché au Kdusha. Aujourd'hui, il y a une grosse épreuve de Shmirat Ha'Enayim, de faire attention à ce que les yeux y voient. C'est très à portée de main. Donc là, il faut réfléchir comment on fait pour régler ce problème de Shmirat Ha'Enayim. Donc premièrement c'est tshuva. C'est tshuva. Klomar, d'abord, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. Alors bien sûr, il y a vidou, il y a harata. Mais d'abord, il faut arrêter, parce que si je fais le vidou, il y a la harata alors que je continue. Alors c'est tovel vesheret vedo, le type il va au mikveh, mais il a encore un truc un peu dans la main, ça sert à rien. Bon, ça c'est begadol, c'est sûr, c'est évident, c'est un iloul, il faut faire tshuva. Je dis pas dans l'ordre les choses qui peuvent nous aider là-dedans. Je vais les dire dans le désordre. Mais par exemple, l'imoud à Torah, c'est un truc terrible. C'est un tikkun terrible, terrible, terrible à tous les nénik doucha. Tous les nénik doucha. Vous savez que dans le Zohar, il y a écrit... Alors ça, c'est dommage parce que les gens sachent qu'il y a écrit dans le Zohar, mais après, ils ne savent pas la suite. Dans le Zohar, il y a écrit que sur Zera Levatala, il n'y a pas de tshuva. Pas de tshuva, impossible. Même si le type fait tshuva, il n'y a pas de tshuva. Comme ça, c'est écrit dans le Zohar, dans les mots. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Tous les mefarchim, ils ont dit que c'est pas ça le pshat du Zohar. Le pshat du Zohar, c'est que pas n'importe quelle tshuva, elle aide. Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que la faute dans la Kdusha, c'est une faute qui est au niveau du Moar. Il y a doua, même dans les sciences aujourd'hui, que le zera, la semence, c'est son shoresh, c'est dans le Moar. Dans la moelle épinière, mais pas la moelle épinière qui est ici, dans la moelle épinière qui est là. D'accord? Alors que la tshuva, ça vient du cœur. Comment c'est écrit dans le pasouk? Je l'ai écrit ici. Vous savez? Non. Un pasouk important de tshuva, que là-bas il écrit que la tshuva est dans le cœur. Yacholiot, c'est pas ça que j'étais là, aval yacholiot. C'est pas ça que j'étais mitkaven, aval gam yacholiot, et Hashem katouche et une tshuva. Donc en fait, le problème il est là. Alors que la tshuva, elle est là. Elle est plus basse. Elle n'arrive pas au problème. Donc elle peut être metaken, mais ce n'est pas metaken tout le problème. Pour être metaken, il faut arriver au moar. Comment on fait pour arriver au moar? Eh bien, on est l'omet Torah. On se casse la tête. Donc il y a écrit que le limud à Torah, c'est un tikkun atsum me'od me'od asa. Bifrat, à plus forte raison, le limud Torah be'ayoun. Donc quand je dis be'ayoun, akavana, bah, pashut, chacun à son niveau, je me casse la tête. Je comprends pas, et ben je dis pas je comprends pas, alors j'ai continué, on s'en fout. Non, je me casse la tête. Et écoutez bien ce que je dis, hein. Même si je me casse la tête et en fin de compte j'ai pas compris, c'est pas grave. Parce que je me suis cassé la tête. Donc j'ai enlevé, j'ai brûlé des problèmes qu'il y avait là. Donc le limud à Torah c'est très important, à plus forte raison le limud Torah be'iyun, et à plus forte raison le limud Torah be'simcha. De s'habituer à trouver la Hana'a dans le limud Torah. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ah, attends. C'est pas pour rien qu'on est amis.
Et ça marche.
Hein? Ben, alors, il y a un Iglétal ici? Là-bas, le Iglétal dans l'Agdama, Kedai, mais ça vaut le coup de lire l'Agdama du Iglétal et même de la lire de temps en temps, de la revoir de temps en temps. Il parle comment on étudie la Torah. L'Iglétal, c'est un livre qui parle des 39 Melachot de Shabbat. pour ça qu'il s'appelle Iglé Tal. Tal, en Gematria, c'est 39. Et il a une très très belle Agdama, il parle de plein de choses. Et il parle que l'Imoud Torah a plus forte raison Beyoun et a plus forte raison avec la Simcha, c'est Metaken le Avon de Bgam Abrit. C'est Metaken le Avon de Gdusha. À cause de ce qu'on a dit. Parce que le Moach, il est là, et le Lev, il est là, la Tchouva, elle est là, le Moach, il est là, donc la Tchouva, elle monte pas jusque là, donc il faut faire quelque chose qui vient d'ici. Et après, il parle de ce qu'on appelle, de ça c'est très connu, ça, il parle de la Torah Lishma. Il dit, les gens, ils pensent que étudier la Torah Lishma, ça, bah, si je kiffe dans mon limoud, alors c'est pas Lishma, puisque je suis en train de kiffer. Lishma, c'est quoi Lishma, hein? C'est quoi Lishma? Lishma, c'est quand je fais les mitzvot et je pleure. Hein, je pleure, bien que j'ai pas envie de le faire, je le fais, ça c'est ma mâche Lishma. Ouais. Si j'ai un kiff, ah ben non, c'est pas Lishma. Alors il dit, c'est faux ça. Bon, là, je rajoute, hein. il dit c'est du christianisme. C'est les chrétiens qui disent qu'il faut pleurer toute la journée pour faire la volonté d'Hachem. Bon. Ouais, c'est pas moi qui me l'amène. Viens, on laisse le bon Dieu décider c'est quelle souffrance qui vient sur moi. C'est pas moi qui vais me l'amener. Je dois pas me couper les doigts quand il y a un problème. Moi, je dois faire tchouva. Kadosh Baruch Hu, au Rotsé, Kadosh Baruch Hu, il veut que je le serve dans la joie. Même les khalakim de la tchouva, qu'il semblerait qu'il faudrait les faire un petit peu dans la tristesse, par exemple, dans la tchouva, un des trucs, c'est la charata. Il faut regretter. Il faut avoir du tsar de ce que j'ai fait. C'est un des tikkunim. C'est vrai, même ça, c'est écrit dans le Harizal, 5 minutes par jour. Toute la journée, tu ne penses pas à ça. Lav dafka pour ces fautes-là, pour toutes les fautes. Quand tu fais tchouva, 5 minutes par jour, on est mitraret. C'est quand? Ou au moment du vidouille, qu'on fait tous les jours, à mincha arvit, ou le vidouille avant de dormir, ou tikkun chatzot. C'est tout. Après 23 heures et 55 minutes par jour, besimcha kol azman. Lo charata. Et si le Yetzer, il te vient, il te dit, ah, valkatu vechatati negdi tamid, ma faute est tout le temps devant mes yeux, vechatati negdi tamid, tu lui dis, c'est pas le vrai pshat, parce que tamid, ça veut pas dire tout le temps. Par exemple, il y a le korban à tamid. On ne faisait pas toute la journée. On ne faisait pas toute la journée, korban à tamid. On faisait deux fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Tamid, ça veut dire c'est tous les jours. C'est pas toute la journée. Mais Hachem, il attend. Ça, c'est le Hari. Hein. Pourtant, le Harizal, il est relativement marmire. Hein. Même lui, il dit que c'est 5 minutes par jour, la charata. Pas de tristesse. Là, ce que je dis, c'est pas du tout Breslev. Bien que j'ai rien contre Breslev. Hein. Mais c'est pas un message de Breslev, forcément. C'est pas un message de Breslev, c'est un message de la Torah. Kadosh Baruch Hu, il attend pas qu'on le serve en pleurant. Ça, c'est le nouveau Testament, ça.
On doit faire des jeûnes pendant Shabbat Vim, on s'inflige une souffrance.
Alors, premièrement, il faut savoir que les poskim, je suis d'accord, hein, c'est Nachon, il écrit qu'il faut faire des jeûnes. C'est-à-dire que les poskim, aujourd'hui, ils disent que c'est pas trop le derrière. C'est pour ça que tu vois que tout ce que je vais vous dire maintenant, je parle pas des jeûnes, bien que je dis pas qu'il faut pas. Et bien que je dis pas qu'il faut pas regarder ce qui est écrit dans les affiches dehors, que vient au Tikkun Shovavim, etc. Je dis pas ça. Mais je dis qu'il faut connaître son endroit. Il faut connaître où je me situe. Il faut que je travaille là où je me situe. Il faut savoir, est-ce que le jeûne, qu'est-ce que je vais gagner avec et qu'est-ce que je vais perdre? C'est évident. Stam, je raconte une petite histoire très importante, très 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 belle, très importante, mais c'est une vraie histoire. Le Rav Shmuel Oyerbach, le fils du Rav Shlomo Zalman Oyerbach, il racontait que son père, donc Dolador, Rav Shlomo Zalman Oyerbach, il racontait tout le temps qu'il y avait quelqu'un là-bas, à Bet-Israël, là où ils habitaient, qui jeûnait plusieurs fois par an, de Motsaï Shabbat jusqu'à la Knissat Shabbat. D'accord? Ouais, les jeunes de 6 jours, là, les jeunes violents. D'accord? 6 jours, rien du tout. Pas une goutte d'eau, rien. D'accord? C'était leur voisin. Comme ça, il raconte Rav Shmuel Oyerbach. C'était leur voisin. Et il l'a fait plusieurs fois. Plusieurs fois, il fait ça pendant l'année. Et pendant des dizaines d'années, il a fait ça. Une fois, on était à 1 heure de Shabbat, un truc comme ça. Il reste 1 heure. Il a dit à sa femme, amène-moi à manger. Donc sa femme, elle a dit, s'il a dit, amène-moi à manger, c'est que le type, il est en train de... Il va s'évanouir sinon je ne l'amène pas. Elle lui a amené. Mais elle voit qu'il n'a pas du tout l'air de vouloir s'évanouir. Et il a mangé. Quand il lui dit, mais Xia, tu te sens mal? Il dit, non, je me sens très bien. Asmakara. Il dit, je suis en train d'étudier. Il y a un Tosfot. Le Tosfot, j'essaie de le comprendre, j'y arrive pas. C'est une vraie histoire. Rav Shmuel, il a raconté, moi je l'ai entendu mes oreilles de sa bouche. C'est son voisin. Il dit, là, j'y arrive pas. Et je sens que j'y arrive pas parce que je suis faible à cause du jeûne. Donc il faut que je mange pour comprendre Tosfot. Atkan l'histoire. Ça, c'est l'histoire. Maintenant, venez, réfléchissons. Je comprends pas. Il reste une heure. C'est pas chaval. Laisse tomber le Tosfot pour l'instant. Fais encore une heure. Venez, c'est pas un jeûne de 12 heures que ça fait, là. Tu as fait un jeûne de 6 fois 24. Une heure. Après, t'es le héros. D'accord ? Ça veut dire que comprendre un Tosfot, c'est plus grand qu'un jeûne de 6 jours. Donc c'est vrai, nous on a l'impression que le jeûne ça fait quelque chose. Et c'est vrai que ça fait quelque chose. Mais il y a des choses qui vont beaucoup plus loin. Donc si maintenant, pour répondre à ta question, si maintenant mon jeûne, et je pense qu'aujourd'hui c'est pratiquement le cas de pratiquement nous tous, si mon jeûne il fait que dans ma Avodat Hashem, eh ben, ça ne marche pas comme si j'avais mangé, alors c'est pas Kedai. C'est pas Kedai. Bien sûr, si de toute façon je ne fais rien de la journée, je suis au lit et je ne fais rien, de toute façon j'étudie pas, alors ok, vas-y jeûne. De toute façon, ça ne te dérange pas, tu es en train de dormir. Mais si le type, pour ça, il va devoir descendre du limud Torah, c'est chaval meod. Voilà, je reprends maintenant où on en était. Donc il dit la Torah l'Ishma, quand j'étudie la Torah et que je suis heureux dans ma Torah, c'est Torah l'Ishma. Ça n'a rien avec la Torah l'Ishma. Pire que ça, c'est la Tzura de la mitzvah. Par exemple, quand je mets mes tefillin, je dois être heureux, oui ou non? Oui. Quand je fais une autre mitzvah, je dois être heureux, oui ou non? Non. Ça fait partie de la mitzvah? Non. La mitzvah, c'est de mettre les tefillin. Quoi, dans la mitzvah de tefillin, il faut que je fasse la simcha? Non. C'est que quand je suis arraché, je dois être la simcha, mais ce n'est pas lié avec la mitzvah de tefillin. La mitzvah de l'imout Torah, dans la mitzvah elle-même, la façon de la faire, c'est la simcha. D'où on sait, puisque avant chaque mitzvah, on fait la bracha de la mitzvah. Baruch ata Hashem, le'aniach tefillin. Et tout de suite, il faut faire la mitzvah. Je n'ai pas le droit de faire un hefsek. Je n'ai pas le droit de dire le'aniach tefillin et Hashem. Fait que je kiffe que de mettre les tefilines. Et maintenant je les mets. Non, j'ai pas le droit, c'est un effet, rend ou pas? Ben, c'est ce qu'on fait tous les jours dans les birkot à Torah. On dit Baruch ata Hashem, Asher ki deshem shavshenu al divrei Torah. Veha'arevna Hashem vechule. T'as pas encore commencé à étudier. Déjà, tu demandes que la Torah, elle soit areva, elle soit metuka. C'est un chelek intégral de la mitzvah. Bon. Il dit aussi à plus forte raison l'imoud de l'alachot Shabbat, avant l'homme chané. C'est le kol la mitzvot kulam, kol alimoud, l'homme chané de qu'est-ce que j'étudie, kol chiken beyun, kol chiken besimcha, c'est un tikkun meod gadol. Top, j'aurais voulu vous lire à l'intérieur, mais le temps il se fait juste, donc on va passer à d'autres choses. Ot tikkun meod chashuv, c'est les brachot. Katouf dans le chida, et si je me souviens bien, il ramène ça du Hari. Que de faire les brachot bekavana, c'est un tikkun atsum meod à tout ce qui est problème de Gdusha. Maintenant, brachot bekavana, il ne faut pas rentrer en lachat. C'est quoi brachot bekavana? C'est je pense à ce que je disais tout. Barour c'est barour, hata c'est hata. On ne parle pas de kavanot ni du hari, ni du baba salé, etc. Bien sûr, plus les kavanot elles sont profondes, plus un tikkun. Je n'ai pas dit ça, je ne dis pas non. Mais je dis que je ne sais pas, moi je parle pour moi, peut-être pour vous aussi. Kavana Pshuta. A Kavana Pshuta. Je ramène encore une histoire du Rav Shlomo Zalman Auerbach. Et ça, c'est le Rav qui me l'avait raconté. Que le Rav Shlomo Zalman Auerbach, quand il voulait se renforcer, quand il sentait qu'il devait se renforcer dans la Avodat Hashem, eh ben, il prenait sur lui se renforcer dans les brachot. Maintenant, brachot, c'est quoi? C'est, bah, vraiment, c'est pas dur. C'est 100 fois par jour. D'accord? Mais maintenant, 100 fois, mais ça va très vite. Parce que déjà, tu as 20 brachot le matin. Dans les Birkot HaShachar, Birkot HaTorah. Même si tu les fais Bekavana, ça veut dire dans le sidour et doucement, c'est 5 minutes, pas plus que ça. 5 minutes, on peut les donner. Après, on a 57 brachot dans les amidot. Je suis déjà dans la mida. De toute façon, je fais rien, je regarde rien et je suis dans mon sidour. Je peux la faire la bracha Bekavana, je peux la faire. Donc on est déjà à 57 plus 20, on est déjà à 77. Nishar Kloum. Maintenant, je vous dis la vérité, à part ça, il ne s'agisse pas de... C'est pas si je fais les 100 brachot de Kavana, alors ça marche, et si je fais pas 100, ça marche pas, c'est pas vrai. Chaque bracha de Kavana yozeret. Chaque bracha de Kavana yozeret. C'est tikkun gadol meod, côté vachida, c'est tikkun gadol meod. Et je l'ai vu aussi ce Shabbat-là au nom du Rav Sternbuch, qui a parlé des Shuvavim. Il a parlé de ça. Il a dit, Rabotai, meod chashuv brachot ke a tikkun azé. Stam kacha, si on fait attention à ce qu'on dit quand on fait une bracha. Pas besoin de... Mais après, on kiffe. C'est quoi Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam Shehakol Nehiya Bidvaro. Baruch, c'est toi qui es la source de ce que j'ai devant moi maintenant. C'est toi la source, c'est toi qui me l'as donné. Ata, c'est que toi. Ah, mais j'ai l'impression que c'est ma femme, c'est mon père, c'est ma mère, c'est machin, etc. Ouais, non, eux, c'est comme le type qui t'amène la pizza. D'accord ? C'est le Mishlochan, c'est le livreur. C'est que toi, Baruch Ata, et ce n'est que toi la source d'abondance. Hachem, Elokeinu, c'est quoi Elokeinu ? Tu es le Dieu à nous, tu t'occupes de nous. Ça, quand je prends un café, un bon café au lait, ou chocolat avec ce qu'il fait vibrer, d'accord ? Un bon verre de coca, c'est Hachem qui a dit, eh ben, comme je m'occupe de toi, que tu es mon fils, eh ben, je vais t'amener un verre de coca. Non, c'est la vérité. Il n'y a pas un gramme de, il y a pas un gramme de d'exagération. C'est ça, Elokeinu. Elokeinu, tu t'occupes de nous. Melecha olam, she'akol yavidvaro. Mais celui qui fait ça, même une fois par jour, il va changer sa vie. Même une fois par jour. Soit dit en passant, je vous donne le conseil. Commencez pas par les 100 brachot par jour. Commencez par une bracha par jour. Vous décidez laquelle. Tout le temps la même. Tout le temps au même moment. Un moment dans la journée, je vais le faire. Décidez une bracha dans la journée, mais celle-là, vous la faites avec d'après toutes les règles de l'art. Vous fermez les yeux, vous pensez qu'Hachem, il est là, vous lui parlez, et tu lui dis, c'est toi et que toi qui m'as donné ça, parce que tu t'occupes de moi et tu m'aimes. Et tu manges. Commencez par une, pendant quelques jours, voire même peut-être 2-3 semaines, etc., en espérant après faire 2, faire 3, faire 4. C'est évident que la vie, elle va changer. C'est évident. C'est évident. Et comme on a dit, à part ça, c'est un grand tikkun. Encore un tikkun, le Kriyat Shema du soir avant de dormir. Le Kriyat Shema du soir avant de dormir, mais autre chouf. Donc il faut avant de commencer le Kriyat Shema, avant de dormir le soir, alors il faut penser au moins à la Kavana Pshuta de dire que ce Kriyat Shema, ce soit un tikkun pour la vonne de Pgam Abrit. D'accord ? Ça aussi, c'est Metaken Arbe Meod, Arbe 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 Meod. Maintenant, on va dire, ah, mais un seul Shema. Non, mais attends, un seul Shema, et demain et après-demain. Dis-moi, tu comptes pas nous quitter, tu comptes pas quitter ce monde-là demain, non ? T'as quel âge ? T'as 20 ans, tu abaiseras ta chaîne au moins jusqu'à 80 ans. C'est ça la minima, la moyenne aujourd'hui. Donc t'as 60 ans, 350 jours par an, disons, pour le calcul soit plus simple. Donc en 10 ans, 3500, et en 80, donc 3500 fois 8. Non, 3500 fois 8, ça fait 22 ? Ouais ? Non, c'est possible, hein ? Je sais pas. Top, ok. 26 000 kriyat shema. Même si kol kriyat shema, ça fait un petit truc. 26 000 tikkunim. À émettre, c'est que ça fait pas un petit truc, hein. Ça fait des gros trucs. Il écrit que de temps en temps, avec un kriyat shema, on peut enlever des milliers de kohot atuma qui ont pris les nitzot zokdusha. Ça dépend de jusqu'à combien ça m'est chavé. Donc voilà, on a parlé de tshuva, de limouda Torah. On a parlé de brachot, de kriyat shema shalamita. Maintenant, la dernière chose, comme on a dit, beikar aujourd'hui, c'est tout le temps, mais kol shekhen aujourd'hui, c'est shmirat ha'enayim. Et shmirat ha'enayim, le gros problème aujourd'hui, la vérité, le gros problème aujourd'hui, c'est pas la rue. Le problème, c'est le marché. Hein. C'est le smartphone. Donc moi, je sais pas, hein, je vous connais pas, je suis très 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 content d'être devant vous. Je sais pas si c'est réciproque, mais en tout cas moi ça me fait très plaisir de vous parler. Mais je sais pas jusqu'à combien chacun où il s'en trouve, où il en est, etc. Mais sachez un truc, hein. Ce marchir là, c'est la catas. Pas seulement au niveau de la Torah, mais au niveau de la Torah bichlal, c'est la catas. Donc celui qui a pas encore mis un filtre, mais les vrais filtres, pas les filtres, que tout passe. D'accord ? Celui qui n'a pas encore un filtre, c'est le moment, c'est Shovavim, c'est le moment. Alors, on est au sec Batshuva maintenant. Tshuva, comme on a dit au début, c'est d'abord j'arrête les bêtises. Et arrêter les bêtises, c'est Kodem Kol, c'est d'arrêter de regarder des bêtises. Arrêter de regarder des bêtises, ça fait des... Le Ravad, il dit, quand le type, ses yeux sont gardés, alors son cœur, c'est-à-dire ses pensées, elles sont gardées. Et si ses pensées sont gardées, alors il est tout gardé. Hachem, il dit, si tu me donnes ton cœur et tes yeux, je sais que tu es à moi. Et si mes yeux, ils sont partout, etc. Aujourd'hui, c'est ça le problème, c'est le truc. Donc, je ne sais pas, pour l'instant, je dis pas. Celui qui pense qu'il ne peut pas s'en séparer de son, de, de son, de son marchir. Alors bon, mais au moins de mettre le filtre le plus puissant qu'il y a. Et après, comme ça, vous pouvez regarder la météo sur votre marchir et kiffer. D'accord ? Il faut un motin, ce marchir-là. J'ai raconté une histoire. Voilà, je termine. Mais en tout cas, sachez que le Béicar, c'est l'histoire du marchir. J'ai raconté une minute ? Une minute. Voilà. Et j'ai raconté d'ailleurs l'histoire au Rav il y a quelques mois. Il avait du mal à y croire, mais après, il m'a dit qu'il a vérifié que c'est vrai. Il y a Rami Lévy. Vous connaissez Rami Lévy ? Rami Lévy, c'est la plus grosse chaîne de supermarchés ici. C'est un type, il est archi-milliardaire. Archimilliardaire, c'est un épicier comme ça. Il est devenu archimilliardaire. Il a des centaines dans le pays. D'accord ? Eh bien, il a pas de iPhone, le type. Il a un téléphone cachère. C'est pas un froum. Hein. Bon, il est chômeur mitzvot, mais c'est pas un froum. Il a un téléphone cachère. Ils lui ont dit comment c'est possible. Et encore une fois, je vous dis, le Rav, il a vérifié. Le fils du Rav, il a vérifié. Il a demandé à Rami Lévy, à Tzmoï, il a dit ouais, c'est vrai. Il dit pourquoi ? Quel rapport cachère ? Il dit c'est simple. Moi, je me suis fait une matara. J'ai un but. Mon but, c'est de devenir très riche. Pour faire ça, je me suis dit, il faut que j'ouvre, il faut que machin, etc. Maintenant, je suis avec toute la journée avec les distributeurs, les machins, il faut que j'ai le truc. Il dit non. J'ai vu que ce truc-là, Pachout, ça m'éparpille partout. Ma tête, elle est là. Pour réussir, il faut que d'abord je fixe mon but et après que je suis que dans mon but. Mais s'il y a un but qui est fixé, mais ma tête, elle est partout, un truc de laser de 3 milliampères, il peut couper du fer. Alors que le soleil, tu mets un petit rideau, il ne passe plus. Comment c'est possible ? Parce que le laser, il est concentré. Le soleil, il est éparpillé. Il dit, ce marchir-là, ça éparpille. Tu ne fais rien de ta vie. Tu es partout en même temps. Si on veut réussir, il faut se donner une matara. Nous, notre matara maintenant, c'est de se rapprocher d'Hachem dans l'Akdoucha. Une matara. Et ce marchir-là, c'est le plus grand truc qui éparpille la truc. Donc au moins... Bezrat Hashem, j'espère, en tant que Shlav Rishon, que ceux qui n'ont pas encore le filtre, le meilleur filtre, ils mettent le meilleur filtre en tant que étape numéro 1, Bezrat Hashem, en espérant que par la suite, ça aille beaucoup plus loin. Voilà, Chazak ou Baruch, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite plein de Hatzlacha.